C'est l'Hyperforum, en direct de la Carto, où Radio Primitive a posé ses studios.
De retour donc à l'Hyperforum, à la cartonnerie, vous êtes sur Radio Primitive et on va passer toute la journée à l'Hyperforum avec tout un tas d'activités et tout un tas d'invités évidemment. Nous accueillons maintenant tout de suite Younes Zakari qui est conseiller principal d'éducation au lycée Gustave Eiffel. Bonjour Younes, je me permets, je te tutoie parce qu'on a déjà travaillé ensemble et on va être amené à retravailler ensemble pour l'occasion de la deuxième édition de Fest Eiffel cette année.
Tout à fait.
Qui est donc au mois de mai.
Exactement, ça sera, si je me trompe pas de mémoire, le 15, 16 et 17 mai.
Ok.
On a réussi à banaliser les cours cette année, donc à partir de 14h30 en fait, les élèves seront présents sur le Fest Eiffel pour pouvoir profiter de l'ensemble des activités mises en place.
Ok, super. Alors, c'est la deuxième édition du Fest Eiffel. La première édition s'est déroulée donc l'année dernière, plus ou moins au niveau des mêmes dates. Et on a déjà eu l'occasion de voir énormément d'activités différentes. On a vu tout un tas de choses. Lorsque nous y étions avec Radio Primitive, on a pu voir des concerts, on a pu voir des ateliers de graphes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à cette première édition, rappelle-nous ?
Déjà des ateliers radio avec vous, Radio Primitive. On avait aussi RJR qui a été présent également pour pouvoir mener ces ateliers. On avait des diffusions de films, notamment un documentaire qui s'appelait La République des lycéens, qui avait été tourné justement sur l'atelier citoyen qu'on avait mené au lycée Gustave Eiffel. Et comme tu l'as dit, voilà, concert, atelier graph, exposition également dans les restaurants d'application, ça donnait sens, puisque dans les lieux de travail, on y rentrait justement ce côté artistique, en partenariat avec le collectif Lamine, qui est situé sur Croix-Rouge. Et déjà, on avait lancé voilà, ce partenariat sur la ville avec l'ensemble des structures culturelles, et c'est ça également qui était très intéressant dans cette première édition du Fest Eiffel.
Oui, tout à fait. Alors nous, ce qu'on a vu de notre point de vue de Radio Primitive, c'est que vous mettiez pas mal l'accent sur les élèves investissent donc leur lycée, non plus vraiment en tant qu'élèves, mais en tant qu'intervenants, même à part entière. Qu'est-ce qu'il y a eu comme activité où les élèves ont vraiment pris en charge certains ateliers et ont montré qu'ils avaient leur propre spécialité?
Déjà sur l'organisation, parce qu'on a travaillé avec des instances démocratiques et associatives du lycée. On a le CVL, le Conseil de vie lycéenne, et également la MDL, la Maison des lycéens, qui est en fait l'ancien foyer, mais qui est une association de loi 1901, qui est gérée par les élèves pour les élèves. Donc sur l'organisation, ça a été fait avec eux, et même également avec le PAPD. Le PAPD, c'est un dispositif d'accompagnement des élèves en décrochage, et on avait pu mener des actions sur le lycée, où c'était eux qui passaient les APL pour pouvoir organiser justement ce Fest Eiffel.
Alors, j'ai envie de mettre l'accent sur quelque chose qui m'a agréablement surpris, c'est-à-dire qu'il y avait bien évidemment, et là je vais parler des concerts, des artistes, etc. Il y avait donc des artistes qui se sont produits sur scène, donc vraiment devant ce public-là. Ce sont les artistes qui viennent directement voir les lycéens sur leur lieu, là où ils passent toute la journée en réalité. Donc ce contact, c'est quelque chose, je pense, qui vous tient à cœur. Et ce qui m'a surpris, et ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, parce que je trouve ça vraiment très très intéressant, c'est qu'il y avait parmi les gens qui ont proposé leur musique, il y avait un surveillant, je crois, du lycée Gustave Eiffel.
Tout à fait, un assistant d'éducation qui s'appelle Lucas, son nom de scène c'est Nervoso, qui est justement aussi accompagné par les structures de la ville, et il a pu justement se produire au sein du lycée Gustave Eiffel, et ça crée aussi une relation éducative différente, puisque forcément on voit que on a une vie aussi à côté, qu'on mène des différents projets, et on les amène directement aux élèves, et c'était le sens aussi du Fest Eiffel, et je pense que c'est également le rôle de l'école, d'amener au plus proche des élèves la culture. Et c'est aussi des moments via l'éducation populaire. J'entendais les collègues des maisons de quartier tout à l'heure.
Exactement, exactement.
Et c'est exactement ça qu'on veut mettre en place. Finalement, les enseignements sont au centre du Fest Eiffel, mais ils sont finalement abordés de façon différente et moins institutionnelle. On peut voir par exemple que même pendant des voyages scolaires, peut-être que des élèves vont apprendre différemment, peut-être mieux qu'en salle de classe notamment, ou quand on a une orientation subie, quand on n'a pas forcément choisi sa filière, c'est plus difficile d'être attentif en classe, et on voit que quand on apporte l'enseignement de façon différente, on a des élèves qui apprennent et qui enrichissent leur culture générale.
Je rebondis sur ce que tu disais justement, nous avons eu l'occasion de discuter un petit peu avec Jean-François d'Argencourt, Teddy Ducrot et Céline Cousin. Teddy Ducrot a utilisé justement un terme que j'ai entendu de nombreuses fois, qui est spectateur. C'est un terme que moi je trouve très très chouette parce que ça rend du coup la personne qui est passive entre guillemets, ça la rend de fait active, le côté spectateur. Et c'est peut-être justement ce que vous avez envie de mettre en avant.
Exactement, parce que on fait également de ce moment, de ce Festival, le point d'orgue de l'année où on va avoir des restitutions faites par les élèves. Par exemple, je prends déjà la première édition, on avait l'atelier citoyen que je mène avec des enseignants. Je pense à Anne-Laure Hartmann, Mourad Loussi, Flynn Nguyen, avec qui on travaille sur cet atelier citoyen, où les élèves ont rédigé une proposition de loi pour l'égalité alimentaire. Cette proposition de loi, elle a été justement présentée sur votre plateau Radio Primitive avec des podcasts qui avaient été mis en ligne. Et justement, ça c'est très important parce que ça les valorise. Ils se rendent compte qu'ils sont acteurs et aussi qu'ils font partie intégrante de la société. Cette proposition de loi, d'ailleurs, elle a été déposée aux députés de la circonscription. Ils ont même été récompensés par un prix du Conseil constitutionnel. Ils ont été reçus par Gabriel Attal et Laurent Fabius au Conseil constitutionnel en début d'année. Et pour les élèves, c'est une vraie reconnaissance, surtout en lycée professionnel où il y a des préjugés qui perdurent sur le lycée professionnel, sur nos élèves, sur nos formations. Et quand on voit que sur un travail citoyen, on arrive entre guillemets à battre des lycées généraux, ça fait très plaisir aux élèves et ça montre qu'ils sont autant capables que les autres et qu'ils sont des citoyens aguerris. Et c'est le rôle de l'école de les amener à ça.
Ben oui, tout à fait. Alors justement, tu es à l'initiative du premier Festival. Il y a tout un tas de personnes qui pourraient peut-être voir ça comme quelque chose de très saugrenu, d'imaginer un festival au sein d'une école, voire même, vous avez peut-être, recueilli quelques critiques du fait que l'école, c'est l'école, c'est sérieux, on n'est pas censé s'amuser, on n'est pas censé voir des concerts, etc., etc. Il y a tout un tas de personnes qui peut-être imaginent qu'on doit absolument séparer les deux. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'intégrer, de faire une passerelle, de créer finalement un lien entre les deux ?
Déjà, la culture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, que j'ai toujours trouvé primordial dans le quotidien, puisque c'est ça aussi qui permet de faire société et de gommer les différences. Oui, on a pu entendre des critiques, mais on a pu très rapidement convaincre du bien fondé de cet événement, mais c'est aussi justement grâce à l'ensemble des partenaires de cette ville. Ce Festival, il n'existerait pas sans les acteurs culturels de cette ville. Finalement, on est juste des facilitateurs et si ça peut bien se passer, si ça s'organise assez facilement, c'est parce que chaque structure avec lesquels on travaille, mettent leur pierre à l'édifice, pardon.
Ok, oui, c'est ce que j'imaginais. D'ailleurs, la première édition s'est relativement bien passée, je pense.
Très bien passée.
Ok, très très bien. Pour la deuxième édition, est-ce que tu peux nous citer quelques particularités, quelque chose qui est un petit peu différent de la première édition ? Est-ce qu'il y a des activités que vous n'aviez pas réussi à mettre en place lors de la première édition et qui maintenant sont présentes ?
Par exemple, l'open mic. L'open mic s'est imposé l'année dernière finalement de façon assez fortuite à la fin d'un concert.
Oui.
On avait déjà mené des ateliers rap dans l'établissement. Je savais qu'il y avait des élèves qui aimaient ça et finalement ils sont montés sur scène de façon assez intuitive et quelque chose s'est lancé. Donc cette année, on va avoir un atelier open mic présent sur le parc du lycée, notamment avec Nervoso qui est assistant d'éducation.
Qui continue
chez
donc.
Nous.
Très bien.
Exactement.
Okay.
En parallèle des ateliers graphes, etc. sur l'après-midi.
Okay.
On a réussi aussi à développer cette fois-ci aussi un peu des activités ludiques.
Oui.
On va installer des installations gonflables, un taureau mécanique, baby-foot géant, et également des activités sportives en lien avec justement les collègues aussi enseignants d'EPS, parce que c'est ça aussi dans le Festival qui est intéressant, c'est que chaque enseignant a également sa place et son rôle à l'intérieur. Je travaille avec les professeurs d'art appliqué, notamment sur tout ce qui est chartes graphiques, affiches. Là, on réfléchit même à ce qu'on pourrait faire l'année prochaine. Tous les enseignants se sont mis à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un début du Festival un peu décalé, puisque cette fois-ci, on va avoir donc voilà ce temps fort mimé comme on en a parlé tout à l'heure, mais
oui.
Également en début du mois, on a une ouverture avec Monsieur Lioré, un enseignant du lycée qui va lancer la prévention à la sécurité routière, avec aussi les Mitch qui vont faire du coup une prestation d'improvisation au même moment. Et on fait également du théâtre avec la compagnie Enlacée et tout le pôle hôtellerie-restauration où on travaille le théâtre et le design culinaire. Donc on arrive à la fois à mêler enseignements généraux, enseignements professionnels et bien évidemment l'art qui les rejoint assez facilement finalement.
Toujours dans l'optique de créer des passerelles entre ces différentes matières, avec tous les a priori qu'on peut avoir, on y revient malheureusement sur le milieu professionnel en général, qui sont considérés comme, par tout un tas de personnes, comme une voie de garage, sans mauvais jeu de mots. J'ai une toute dernière question en ce qui concerne peut-être l'émancipation de certains élèves ou de certaines élèves qui n'hésitent pas à s'emparer de telle ou telle activité, justement par ce biais-là. J'ai le sentiment, ou c'est peut-être un espoir, tu nous diras, que tout un tas de personnes qui n'auraient peut-être pas osé, osent maintenant, parce que c'est chez eux, parce que c'est devant eux, chez eux avec des guillemets bien évidemment, mais en tout cas ils passent le plus clair de leur temps dans leur lycée, là ça arrive chez eux. Est-ce que vous avez eu des bonnes surprises de voir quelqu'un que vous ne pensiez pas apte à être hyper actif, quelqu'un de très actif, l'être de fait, parce que tout est plus facile ?
Tout à fait. Je pense notamment à une élève qui, sur l'atelier graphe, s'est révélée et qui passait derrière en vie scolaire, montrait ses dessins. Et on a vraiment vu un avant et un après sur l'émancipation de cette personne. Ou je pense à un autre élève qui est monté sur l'open mic, un élève dont... Voilà, pour plusieurs élèves pour avoir des préjugés sur lui. En fait, tout s'est hyper bien passé. Il a été acclamé par la cour de l'établissement. Et on a vu justement aussi sa confiance en lui grandir de jour en jour. Et aussi, il y a eu un impact sur les structures associatives et démocratiques du lycée dont on parlait tout à l'heure, où les élèves, directement en début d'année, sont venus d'eux-mêmes, beaucoup plus volontaires, pour s'inscrire dans ces dispositifs afin de participer à l'élaboration du Fest Eiffel. Donc on voit qu'on a travaillé justement à la fois sur le champ citoyen, sur les compétences psychosociales qui sont transversales à l'ensemble des matières, à l'ensemble des enseignements, et c'est pour ça que finalement ce Fest Eiffel va à vocation être pérennisé, je l'espère, et à grandir d'année en année.
Ok, super, cette émancipation elle est nécessaire et indispensable et vous la créez, donc on peut dire que c'est une victoire sur toute la ligne.
Tout à fait, et je répète que c'est un travail collectif avec l'ensemble des structures de cette ville et également avec l'ensemble des enseignants.
Très bien, merci beaucoup Inès Zachary.
Merci à vous.
Con nombre de virgen, bajo la luna todos los santos la bendicen. De mal casaña rejuntada, hueso dicen. Tiene mal aje y mal carácter como toda su estirpe. Madruga tras la faena, un padre nuestro. Enfada con Cristo, besa la medalla al cuello. Vestido de lunares y flores en su pañuelo. Traguito al suelo y pa'lante, no hay tiempo pa' duelo. Acostumbrada a echar un puñeto más al puchero. Come su sangre, come su calle y el barrio entero. Carmen sabe de dolores, del amor de sus mujeres. De lo malo de la noche y del veneno. Con esos andares saben lo que fue de joven. Conocen en la calle sus cantares por la lole. Se ensucia las manos que ninguna madre llore. Por los costales raja y sale la rabia de pobre.
Dicen que nada la duele. Porque no la ven llorar. Y a tu corazón y al suyo no debieran de escuchar.
Spécial en direct de la cartonnerie sur les ondes de Radio Primitive jusqu'à 18h.
Nous sommes donc toujours en direct de la cartonnerie à l'occasion de l'Hyperforum. On est ensemble en direct depuis 11h et jusqu'à 18h ce soir avec une petite pause repas bienvenue. Et pour continuer cette émission, nous avons autour de la table trois nouveaux invités. Marie Pierrard, Marielle Audet et Rémi Costa qui viennent nous parler d'une action. Alors on a écouté un bout du spectacle, c'est en lien direct avec vous, il y a quelques minutes sur les ondes de Radio Primitive. Un petit tour de table, au-delà du prénom-nom, pour qu'on sache à qui nous avons affaire.
Honneur aux dames.
Honneur aux anciens. Donc moi, je m'appelle Marielle Audet, je suis orthophoniste au CHU de Reims depuis 13 ans en pédopsychiatrie, voilà. Et l'atelier d'écriture a aussi 13 ans. Ah, voilà, c'est mon 13e album cette année, le 8e avec Rémi, mais en tout cas voilà, ça fait 13 ans que ça dure et j'y tiens énormément. Voilà, c'est pour moi un groupe qui est une bouffée d'oxygène et une grande ouverture sur le monde, voilà.
Alors moi je suis Marie Pérard, je suis éducatrice spécialisée, je travaille en pédopsychiatrie depuis 18 ans. Je travaille essentiellement avec des ados, j'ai travaillé en hospice, en hôpital de jour où j'ai rencontré Marielle, on travaillait avec ces patients-là. J'ai d'abord été publique des concerts et puis il y a quelques années, Marielle m'a demandé de la rejoindre, donc c'est la cinquième année que j'anime avec elle cet atelier.
Et moi, du coup, je m'appelle Rémi Costa, je suis musicien et je suis via la cartonnerie associé à ce projet depuis donc 8, c'est la 8e année. Voilà, c'est la 8e année, je ne sais jamais combien de. Et donc, c'est un atelier que j'anime, enfin, que nous animons avec un plaisir non dissimulé, parce que ça se passe bien tous les ans, il y a des surprises un peu tous les ans, mais c'est vraiment un. C'est vraiment, enfin, c'est très frais, quoi. C'est vraiment, enfin voilà, c'est super intéressant pour moi, qui suis en parallèle un peu auteur-compositeur, et du coup, ça nourrit un peu le travail de musicien que je fais en parallèle. Donc c'est vraiment hyper intéressant.
Alors tout à l'heure, avec Anaïs et Lucas de la cartonnerie, on a présenté très rapidement le projet. On a expliqué également qu'on allait écouter un extrait du spectacle. Hein. Mais là, vous me parlez tout de suite d'album, et nous, on en est intéressé à atelier spectacle. Alors, on va tout reprendre depuis le début pour dérouler le fil. Peut-être comment tout ça est né, de quelle envie, pourquoi, et puis après, voilà, comment ça se passe, quelles sont les finalités, quels sont les objectifs pédagogiques aussi de ce projet, et les envies derrière. Alors, pour l'historique, il faut remonter donc... Il y a 13 ans, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, il y a 13 ans. Donc moi, je suis arrivée dans le service. Il existait déjà des ateliers d'écriture, mais c'était plus des ateliers d'écriture de nouvelles ou de romans ou de poésie. Et on m'a demandé de reprendre un atelier d'écriture. Faut savoir qu'à l'époque, pour obtenir des financements, c'était extrêmement compliqué. C'est pas le CHU qui finance ce type d'activité extérieure. Hein. Il faut vraiment se battre. Et en fait, avec ma collègue de l'époque, la cartonnerie nous a fait cette proposition d'un atelier d'écriture de chansons pour un budget. C'est un peu trivial, mais malheureusement, mais c'est la réalité.
On en parle avec tous les acteurs qui sont autour de cette table. Hein, c'est
donc
un peu
voilà,
le nerf
pour
de
un
la
budget
guerre.
Qui nous convenait. Donc, à l'époque, nous, on allait faire les rotaries, les dossiers Air France et compagnie. C'était l'enfer, vraiment, chaque année pour pouvoir poursuivre cet atelier. Et donc, on a passé 4 années avec Mila Marina, Gustine. Voilà, on a fait les premiers ateliers, c'était avec elle. Voilà, ensuite, les choses avec l'arrivée des dossiers culture et santé ont commencé à aller beaucoup mieux, et maintenant Anaïs gère ça d'une main de maître et on a notre financement vraiment chaque année. Donc voilà, l'historique c'est un petit peu ça, c'est une question de budget qui a fait que, mais malgré tout une poursuite pendant tant d'années c'est que ça fonctionne. Voilà.
Pourquoi, alors ça vous paraît sûrement évident parce que vous êtes dedans toute la journée, mais pourquoi cette envie de proposer donc des ateliers d'écriture, que ce soit d'écriture de chansons ou d'écriture de romans ou de nouvelles, qu'importe, mais pourquoi cette envie? Qu'est-ce que ça apporte à votre public?
Alors déjà, bah, je suis orthophoniste, donc le langage, c'est un peu mon métier et mes envies. J'aime les mots, hein, au-delà de mon métier. Qu'est-ce que ça apporte? Alors on a affaire à des enfants qui sont quand même souvent en grande difficulté d'écrit, mais pas que, des enfants qui ont un imaginaire qu'ils ont du mal à exprimer. Enfin, voilà, c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, on sait bien que chaque année, c'est difficile de débrider un petit peu cet imaginaire. Ensuite, le fait de passer par quelque chose qui va être chanté, c'est quand même pas mal. Et puis, bon, ce qui est vraiment le truc central, c'est cette expérience hyper valorisante pour les enfants, puisque, voilà, 18 séances d'écriture et au bout du bout, un concert qui se passe donc dans notre service, un album, des dédicaces. Donc on les rassemble autour d'une table, on distribue les albums, ils dédicacent leurs albums. Ils sont un peu les vedettes. On leur explique tout en début d'année, mais ils sont toujours surpris à la fin de l'année de ce qui se passe. Et ils sont en général assez heureux. Et voilà. Je pense que voilà, leur estime d'eux-mêmes... Voilà, s'en trouve bien augmenté.
Avec les invités précédents, je pense aux directeurs et directrices de maisons de quartier, on a insisté sur le fait qu'il était important de bénéficier de temps long pour inscrire des actions, et qu'il fallait avoir le temps quoi, de les dérouler, de se projeter. Est-ce que, justement, ces 18 ateliers, le fait qu'il y ait une vraie continuité, c'est un vrai plus sur le projet? Alors, je ne sais qui veut répondre, hein.
Alors 18 séances, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Sur les prises en charge en pédopsie qui peuvent durer quand même très longtemps. Par contre, on voit une réelle évolution sur les jeunes. Ils grandissent, ils s'affirment aussi, ils osent beaucoup plus. Enfin, vraiment, ça a un réel effet sur eux, sur tous. Hein.
Sur tous, oui.
Et sur Rémi Costa, sur votre implication. Donc, bien sûr, vous êtes là pour les aider à écrire, mais comment vous rajoutez cette dimension artistique, musicale, culturelle? Comment, voilà, quelle est la fiche PEDA que vous donnez en début de dossier?
Il y en a pas vraiment. Enfin, il y a pas vraiment de. Nous, on a une manière de travailler qui est à peu près un peu toujours la même. On vient avec des thèmes, puis après, on voit un peu sous quel. Enfin, on vient avec des thèmes. Ça dépend des groupes, etc. Parce que souvent, on sollicite aussi les enfants pour savoir de quoi ils ont envie de parler. Donc, nous, on affine aussi nos thèmes en fonction de leurs envies aussi, bien sûr, quand les conditions le permettent. Mais après, on a une manière de travailler avec les enfants. Je pourrais pas vous dire après pour le reste, parce que c'est un peu...
Au feeling ?
Bah ouais, en fait, c'est le... Enfin, les compositions de morceaux, elles se font... Moi, en fait, je récupère les écrits des enfants. Souvent, je les compile parce que du coup, ils écrivent pas. Alors là, cette année, on a essayé des trucs en binôme et tout, mais souvent, c'est un peu de manière individuelle. Ils écrivent sur une feuille et après, on fait beaucoup de choses aussi à l'oral où du coup, là, tout le monde participe. C'est beaucoup plus collégial et on a un tableau. On écrit sur le tableau pas mal de trucs. Et en fait, du coup, moi, je prends toute cette matière-là, je la retravaille chez moi. Je ne modifie absolument pas les textes. Ça, on met un point d'honneur à ça parce que c'est vraiment pas du tout l'objectif. Par contre, je vais prendre une phrase de l'un qui va rimer avec la phrase de l'autre ou qui va avoir un peu le même sens, etc. Donc finalement, il y a une trame qui se dessine avec un angle, etc. Et je reviens la séance d'après ou deux séances après avec souvent des textes à trous parce que du coup, il nous manque des rimes, etc. Donc on recherche des rimes ensemble pour finaliser les textes et les textes finissent comme ça. Mais souvent, quand je reviens avec le texte à trous, moi, j'ai déjà une vague idée de ce que va donner la musique sur... voilà, quel tempo, quel esprit un peu va avoir, mais ça, je peux pas vraiment expliquer comment ça vient. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, voilà, j'ai des paroles devant moi, je prends ma guitare et puis j'essaye des trucs, et puis j'en essaye deux, trois différents, et puis après je les enregistre, j'écoute, je réécoute après, et puis je me dis, ah, ça c'est sympa, machin, et je garde une idée, et puis je pars sur cette idée-là pour ce morceau-là. Et puis ça se répète comme ça pour tous les morceaux.
Le spectacle a eu lieu ce matin? Un retour peut-être? Alors là, c'est à chaud, hein. Ça s'est fini il n'y a pas longtemps, mais comment ça s'est passé? Et puis même revenir un peu sur tout ce travail, le retour des enfants déjà, d'une part, et votre retour à vous.
Alors malheureusement, sortie du CHU, on a beaucoup de mal à faire venir nos patients jusqu'ici. Hein, et ça, bon, bah, c'est tout, voilà. Mais c'est pas grave, je dirais. Voilà, même s'il y en a qu'un ou deux, ils en auront au moins profité et c'est toujours une grande fierté pour eux.
Et leur travail aura profité au jeune public présent aujourd'hui,
tout à
parce
fait.
Que la salle était
bien
quand
sûr,
même pleine.
La salle moins. Était pleine, ouais, ouais. Voilà, cette année on a eu pas mal de collègues, donc nous ça nous fait toujours plaisir. Hein. L'atelier d'écriture maintenant au sein du service et au sein du CHU, c'est une institution un petit peu. Enfin, même si personne ne le dit, parce que. C'est pas le genre à faire des compliments, même si personne ne le dit. En tout cas, je sais que moi, je n'ai plus aucun souci au plan organisationnel. Voilà, c'est considéré comme une activité qui fait partie intégrante, voilà, du CHU et du service de pédopsychiatrie. Donc maintenant, ça fonctionne plutôt très bien par rapport à toutes les galères des premières années. Voilà, vraiment là maintenant, ça va tout seul. On a des assez bons retours des collègues en général, des bons retours.
Une fois qu'ils viennent, une fois ils reviennent
ils
tous
reviennent.
Les ans.
Voilà. Et puis au dernier concert de juillet, on a eu la directrice du CHU qui nous a honoré de sa présence, qui a été vraiment très impressionnée par les écrits des enfants, par ce qu'ils pouvaient traduire. Je pense à la question, c'est tristesse. Où elle a été vraiment très étonnée, elle a été discuter avec les enfants, voilà, qu'est-ce qui peut vous rendre aussi triste, enfin, elle était vraiment surprise que les enfants puissent autant se livrer voilà, sur une chanson. Et nous, les chansons, elles nous parlent parce qu'on sait quelle phrase qui a écrit quelle phrase, et voilà, enfin, moi ça a été des bons souvenirs ce concert.
Vous sentez que les participants, les enfants termine cette série d'ateliers avec une fierté le sentiment d'être valorisé. C'est quelque chose qui ressort vraiment de façon flagrante.
Ah oui, oui, ils ont. D'ailleurs, la fin du groupe est toujours un peu difficile. Hein, quand ils repartent du concert, on voit que c'est difficile. Les parents sont aussi très surpris, puisque les enfants, ils ne parlent pas beaucoup de ce qu'ils font dans les groupes. Et ça, c'est vraiment général. Tous les groupes thérapeutiques, ça reste un peu secret à la maison. Ils n'en parlent pas forcément. Donc les parents, ils ne savent pas ce qui s'y passe. Et quand ils voient le rendu, ils sont un peu émerveillés. Ils peuvent le dire à leurs enfants parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, puis ils sont très valorisés sur le moment des dédicaces où tout le monde vient les féliciter. Voilà, c'est quand même une chouette expérience pour eux.
Et il y a, excusez-moi, quelque chose d'assez drôle, c'est que quand les parents écoutent les chansons au concert, il y a toujours une certaine connivence, comme si les parents reconnaissaient la phrase que leur enfant avait écrite. Et là, voilà, leurs regards se croisent et c'est extraordinaire. Et ça, on l'a chaque année. Donc les parents finalement connaissent bien leurs enfants et voilà, c'est aussi l'occasion pour les enfants parfois de dire des choses à leurs parents qui ne leur diraient peut-être pas directement.
Vous avez parlé d'un album, est-ce qu'on peut y accéder ? Nous, le public ?
Non. Alors je sais pas après dans quelle mesure ce serait possible ou pas, on s'est jamais vraiment renseigné finalement, mais
ce sera pour la version 2025.
Je sais en fait non, mais le truc c'est comme c'est un atelier thérapeutique, on a quand même cette histoire de secret médical qui plane au-dessus de nos têtes.
Et oui, donc par rapport au contenu des textes.
Exactement. Du coup en fait le truc c'est que même avant de venir jouer ici, on avait posé la question à l'hôpital pour savoir si, et en fait comme personne n'est nommé. Tout reste très anonyme, donc il y a pas de difficulté. Après, pour le sortir en album, je sais pas, ça poserait peut-être d'autres questions. On s'est pas vraiment renseigné parce que du coup, comme c'est des groupes éphémères qui changent tous les ans, l'idée c'est que les albums soient aussi. Alors avant c'était des CD, depuis 2-3 ans, maintenant c'est des clés USB. On leur donne des clés USB, puis il y a tout un livret qui accompagne l'objet avec des dessins des enfants, parce qu'on les fait dessiner aussi un petit peu au cours des 18 séances, pour qu'ils illustrent un petit peu ce livret où il y a toutes les paroles, avec justement sur le livret les noms des enfants qui ont écrit les phrases. Donc en fait dans chaque texte, vous avez entre parenthèses à la fin de la ligne l'auteur de chaque phrase. Et voilà. Donc je réponds pas vraiment à votre question, mais
complètement
pour l'album, enfin le sortir en vrai, parce que là il y a une dame qui m'a posé la question aussi à la sortie du concert. Elle m'a dit bah oui, mais ma fille elle me demande est-ce qu'on pourrait trouver les chansons quelque part. Et en fait non, enfin elles sont pas sorties. Et je sais pas si on a le droit de le faire. La question ne s'est jamais posée.
C'est vrai que quand il y avait le CD dans la jaquette, il y avait forcément le livret avec les noms. Là
pas forcément.
C'est,
ouais.
C'est peut-être une question qui se pose.
Ouais.
Après. Nous, on fait un deuxième livret avec Marielle où on explique un peu comment on a fait les chansons, de comment on en est venu à ce thème-là et tout ça. Et c'est vrai que là, on a le grand-père d'un de nos jeunes qui est venu nous voir en disant « Mais vous n'avez pas expliqué pourquoi vous avez écrit cette chanson ?» On dit « Bah si, au mois de juillet, au concert du mois de juillet, il y a le livret qui est remis. C'est toi qui avais eu l'idée, hein, Marielle, parce que les gens, en fait, au concert, ils ont envie d'entendre les chansons et pas 5 minutes d'explication entre chaque. Donc, on avait fait ça. Et puis, bon, voilà, comme c'est joué à l'hôpital, c'est beaucoup plus. C'est dans le cadre de l'activité thérapeutique, on peut se permettre de donner ce petit livret explicatif.
Et on y inclut des photos qui sont prises tout au long de l'année, voilà, tout le monde autour de la grande table, les enregistrements des présentations, puisque tous les ans. Rémi enregistre les enfants sur leur présentation, donc c'est aussi un grand moment pour eux. Donc ce petit livret là est en complément et voilà, il traduit vraiment ce qu'est l'atelier d'écriture.
Est-ce que vous savez déjà si 2025 c'est hop, on repart, même équipe? Vous aviez l'air de sous-entendre, mais
on espère.
Vous pouvez dire oui, comme ça vous obligez les financeurs à vous suivre.
Bon, on a tous les ans, on attend la parution des dossiers culture et santé.
Voilà. Oui, on n'en a pas entendu parler encore cette année.
C'est le moment d'envoyer un mail de relance.
Ouais. Bah, en fait, il faut suivre sur leur site. Enfin, Anaïs
gère ça
bien.
Très très bien. Et voilà, ça fait plusieurs années qu'on n'a plus de soucis de financement.
Donc c'est bien qu'on parle d'Anaïs. On parle d'Anaïs qui s'occupe de l'action culturelle à la cartonnerie, qui donc vous accompagne.
Exactement.
Dans ce projet.
Tout à fait.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Ben,
nous, on
merci
va continuer cette
merci
émission avec une petite pause. On va écouter un extrait du spectacle Peace and Love. Donc une captation, là on n'est pas en direct, puis le spectacle sera cet après-midi à la cartonnerie. Donc c'est une captation qui a été faite à un autre moment par d'autres équipes que celles de la Primitive. Et on se retrouve juste après pour continuer cette exploration de l'hyperforum.
Ça les gars,
mieux que toi apparemment.
Désolé, j'arrive en retard à la répète. Je me suis levé à la manche, j'étais sur Twitch toute la nuit. Bref, je te raconterai après. On fait quoi?
T'es sérieux?
Non.
On répète. Ouais.
On répète quoi?
La dernière. Tu commences.
Ah, la dernière.
Ouais. Hey.
Où je commence moi?
Ouais. Hey.
Ok, je vais.
Ouais.
Attends. Hey. En place et attends-toi. Mets ta ceinture, ouvre tes oreilles. Les glaces, écoutez-moi. Prenez des notes, je suis de bons conseils. Clavez ma guitare, tout est ok, on va pouvoir commencer. Peace and love, ton rock de rock et autre musicalité.
Vous avez compris ce que j'ai raconté?
Non.
Ouais, je m'en doutais. En fait, je vous explique, la famille de Kutch, on a un nom de groupe, on s'appelle les Wi-Fi, d'accord? On a une page Instagram, une page Facebook, mais on n'a pas choisi de style de musique, d'accord? Et vous connaissez, il y en a qui connaissent Big Bang Theory ici, la série? Qui connaît? Lève la main si tu connais la série. Voilà. Bon, pour vous, ça va vous parler, pour les autres, désolé, vous regarderez. Mais il y a le générique du début, là, je me suis un peu inspiré, là. J'ai fait, moi, ce que j'appelle l'histoire des musiques amplifiées. Hein. Je suis parti du blues, je sais pas si vous avez vu les petites photos, là. Et je suis allé jusqu'à l'électro, le rap, tout ce qui est moderne. Et je me suis dit qu'en voyant les photos, les copains, on serait peut-être inspirés pour choisir un style de ZICMU. Qu'est-ce que vous...
Ah.
L'idée est bonne hein, d'aller dans l'ordre chronologique des styles, mais là t'es allé tellement vite que déjà moi j'ai rien choisi, j'ai rien suivi.
Désolé.
Non, j'ai rien entendu d'autre que le début, et effectivement c'est pas bête, ça a commencé avec le blues, qui est un peu le début des musiques amplifiées, mais pas que. Attends, tu vas moins rigoler. Tu sais qu'au début du blues, donc au début du 20e siècle, t'as pas l'électricité partout qui arrive. Donc pas de micro, pas de système de diffusion, d'ampli, tout ça. On ferait un petit blues, nous, par exemple, et tu ferais comme à l'ancienne, sans micro, en te faisant aider des 300 choristes.
Ils avaient pas de micro, rien, hein, pas d'électricité?
Bah, pas au tout début, non.
Sans micro?
Ah, ça me ferait plaisir.
Ah, mais je me fais aider de...
Bah ouais, c'est l'idée, ouais.
Vous êtes chaud pour chanter avec moi?
Eh oui.
Ok, alors on va faire un blues en yaourt. Vas-y, balance, sans micro, hein. Yeah.
non, je rigole. En vrai, j'adore le blues. Vous avez assuré. D'ailleurs, du bruit pour vous, s'il vous plaît. Vous êtes magnifique, vous êtes magique. On vous aime d'amour déjà.
Émission spéciale en direct de la cartonnerie sur les ondes de Radio Primitive jusqu'à 18h.